Oui, merci Seigneur. De ce temps, nous ouvrons ta parole. Qu'elle soit pour nous une lumière, Seigneur, non seulement le dimanche matin, mais le dimanche tout entier, et les jours de la semaine tout entière, et les jours des mois. Et aussi, Seigneur, tous les jours jusqu'à ce que tu nous rappelles à toi. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment vivre pour toi, nous voulons te suivre, nous voulons t'aimer. Et pour ça, Seigneur, nous avons vraiment besoin de ton esprit. Et nous te rendons grâce parce que tu l'as donné, Seigneur, lorsque tu es remonté vers le Père, tu as répandu ton esprit sur toute chair. Et nous sommes au bénéfice de cela. Et nous te bénissons, Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui, j'ai pris un texte dans l'Ancien Testament, donc dans le livre du Deutéronome, donc au chapitre 8 de Deutéronome. Et on va lire le chapitre 8 en entier. Vous observerez, c'est Moïse qui parle, hein. Vous observerez pour les mettre en pratique tous les commandements que je vous donne aujourd'hui afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur et si tu observerais ses commandements, oui ou non. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères afin de t'apprendre quoi? Que l'homme ne vit pas de pain seulement. Mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi. Ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son fils. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Pour le révérer. C'est pas pour avoir peur. Pour le révérer. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de nappes souterraines qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain sans avoir à te rationné, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu extrairas le bronze. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque ton gros et ton petit bétail se multiplieront, que l'argent et l'or se multiplieront pour toi, et que tout ce qui est à toi se multipliera, prends garde. Prends garde de peur que ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il t'a fait marcher dans ce grand et redoutable désert, pays des serpents brûlants, des scorpions et de la soif où il n'y a pas d'eau. Il a fait jaillir pour toi de l'eau, du rocher, du granit. qui t'a fait manger dans le désert la manne que tes pères ne connaissaient pas, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la vigueur de ma main ont acquis ces richesses. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ces richesses. Afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies vraiment l'Éternel ton Dieu, et que tu te rallies à d'autres dieux, si tu leur rends un culte et te prosternes devant eux, je vous atteste aujourd'hui que vous périrez. Oui, vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez pas écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Le texte que je viens de vous lire nous montre la merveilleuse pédagogie de Dieu et l'amour qu'il manifeste pour tirer les hommes vers le haut, c'est-à-dire les amener à rompre avec l'orgueil qui est profondément entré dans leur cœur, c'est-à-dire le moi, M-O-I majuscule, au centre de tout. Et leur permettre d'entrer dans une relation de confiance profonde avec lui, c'est-à-dire Dieu, au centre. Ce texte écrit il y a si longtemps nous concerne encore aujourd'hui. Dieu nous appelle à lui faire confiance, car il veut nous combler de ses grâces et nous communiquer sa vie. Pour apprécier la pédagogie et l'amour de Dieu dans ce texte, il faut se remémorer la raison pour laquelle le peuple a marché 40 ans dans le désert. Alors il y en a qui connaissent presque par cœur, puis il y en a d'autres que je vais leur rappeler. Donc je vais rappeler, et tant pis pour vous qui connaissez les choses. Dès sa sortie d'Égypte, Dieu aurait voulu que son peuple prenne rapidement possession de la terre promise. Mais le peuple ne lui a pas fait confiance. Il a eu peur d'entrer dans le pays en entendant le rapport des 12 hommes qu'il avait exploré secrètement sur la demande de Moïse. On voit ça dans Nombre 13. En effet, ces hommes racontèrent que le pays qu'ils avaient exploré était certes un pays riche, un pays découlant de lait et de miel, comme il est dit dans la parole, mais il y avait aussi des villes fortifiées et des populations de géants. Et bien que le peuple ait été témoin de la puissance de Dieu, souvenez-vous, les 10 plaies d'Égypte, le passage à pied sec de la mer des Joncs, la mort de tous les premiers-nés des Égyptiens, sauf les premiers-nés des Israélites, et toutes les autres plaies où Dieu avait manifesté sa puissance. Eh bien, malgré qu'il connaissait ça, le peuple ne voulut pas affronter ce qui lui paraissait insurmontable. Et il a mis en doute le fait que Dieu accomplirait son plan. Nombre 14. S'il s'était senti fort, ce peuple, il n'aurait pas hésité à rentrer dans le pays promis. C'est la preuve de quoi? C'est la preuve qu'il faisait beaucoup plus confiance à ses propres forces qu'aux promesses de Dieu. Cette façon d'agir ne nous rappelle-t-elle pas souvent notre propre attitude? En tous les cas, moi, ça me rappelle. Devant ce manque de foi, Dieu a décidé que cette génération d'incrédules n'entrerait pas dans la terre promise, sauf deux hommes qui avaient toujours eu confiance en lui. Ces deux hommes s'appelaient Caleb et Josué. Tous les autres ont terminé leur vie dans le désert et se sont privés de connaître le pays que Dieu voulait leur donner. Alors lorsque Moïse prononce les paroles que nous avons lues, toute la génération incrédule est morte. Il s'adresse donc à la génération née dans le désert et lui rappelle que malgré les épreuves, Dieu était bien présent et conduisait son peuple. Dieu n'a pas erré tout seul dans le désert. Je vous relis, souviens-toi mon peuple. Souviens-toi tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier, te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions, ton cœur et savoir si tu respecterais ses commandements. Verset 2. Ce verset nous donne une, pas deux, une réponse à la question lancinante que les hommes chrétiens ou non se posent. Pourquoi Dieu permet-il des épreuves? Ce texte nous dit que c'est souvent pour révéler à l'homme les dispositions de son cœur. Il est important, mais vraiment très important, d'admettre que les épreuves de la vie qui sont parfois si difficiles à vivre ne sont pas des mesures de rétorsion de la part de Dieu. Dieu les permet pour que l'homme retrouve le chemin de la confiance et de l'obéissance. Admettons donc que les épreuves ne sont pas systématiquement négatives et destructrices, et apprenons à les vivre en sachant que Dieu ne nous a pas abandonnés. Facile à dire, hein? Mais c'est pas facile à vivre. On le sait tous. On a tous confiance. Et dans l'épreuve, on se dit, oh, est-ce que c'est vrai ce que Dieu a dit? Oui, c'est vrai. Alors, c'est le moment d'éclairer le sens du verbe « humilier » qui a été employé trois fois dans la lecture que je vous ai faite. En français, le verbe « humilier » signifie « rabaisser quelqu'un en le faisant apparaître comme inférieur et méprisable ». Mes sources sont bonnes puisque c'est Larousse qui dit ça. Cette traduction est vraiment très malvenue car Dieu n'agit jamais ainsi. La traduction du rabbinat, la traduction de la Tobe et celle de la Bible en français courant disent « afin de t'éprouver par l'adversité », ça c'est le rabbinat, « afin de t'éprouver par la pauvreté », ça c'est la Tobe qui dit ça, « afin de t'éprouver par la faim », c'est la Bible en français courant qui traduit. Ces traductions sont beaucoup plus conformes au contexte biblique. En effet, si Dieu éprouve les hommes, ce n'est jamais pour les abaisser ou pour les détruire. C'est pour les remettre sur le bon chemin, celui qui conduit à l'obéissance à Jésus-Christ. Ce qui prouve la justesse de ces traductions, c'est que le texte nous montre que l'épreuve imposée par Dieu est immédiatement suivie de sa bénédiction. Je cite, « Il t'a appauvri, il t'a fait connaître la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Et ça, c'est une bénédiction de le comprendre et de le vivre. On voit bien qu'il n'est pas du tout question d'humiliation, mais d'une épreuve qui a pour but, pour but de révéler à l'homme ce qu'il a dans le cœur et de lui montrer le chemin qui conduit à la vérité avec un V majuscule. Et pour nous, chrétiens de la Nouvelle Alliance, c'est quoi ce chemin? Plutôt, c'est qui? Mais c'est Dieu, à travers Jésus-Christ. De quoi Dieu se sert-il ici pour enseigner son peuple? Il se sert du besoin vital commun à tous les hommes. Manger, se nourrir. Aujourd'hui, lorsqu'on a faim, on ouvre son réfrigérateur et on se sert. Une grande partie de nos contemporains n'imaginent même pas que la nourriture pourrait manquer. Et lorsque nous prononçons la demande de notre Père, « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », la confiance qu'il y aura quelque chose dans notre assiette vient plus souvent du fait que les magasins sont bien approvisionnés et que nous avons l'argent nécessaire pour acheter de quoi manger plutôt que l'exaucement de notre prière. Notre situation n'est rien comparable avec ce qu'a vécu le peuple dans le désert. Pendant les 40 années du désert, ce besoin vital de nourriture n'était dispensé que par Dieu. Que par Dieu. Qui donnait chaque jour juste la ration suffisante de manne pour vivre. Et vous le savez, vous qui connaissez les textes, ce que les hommes voulaient garder en réserve pour le lendemain, mais pour assurer leurs arrières quand même, pourrissaient. Sauf pendant le sabbat, où Dieu donnait une ration double, puisqu'il avait demandé à son peuple de ne pas travailler ce jour-là. Pendant 40 ans, le peuple s'est trouvé dans la même situation qu'un SDF de nos jours, sans domicile fixe, qui n'a pas 10 centimes devant lui. Il ne pourra manger que si les gens veulent bien déposer quelques pièces dans une boîte posée au sol devant lui. S'il existe des sans-domicile fixe chrétiens, la demande qu'ils font à Dieu, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, est une prière qui n'est sans doute pas faite à la légère, comme nous pouvons le faire si souvent. Qu'est-ce que Dieu voulait faire comprendre à son peuple, juste avant qu'il entre dans le pays promis? Et que veut-il nous dire aujourd'hui à travers ce texte? Beaucoup de nos contemporains pensent que le sens de la vie se réduit à la satisfaction des appétits. S'ils gagnent assez pour bien s'habiller, manger et mener une vie, un train de vie confortable, la vie est bonne. Or, les biens matériels n'apportent pas de réponse, n'apporteront jamais de réponse à nos aspirations les plus profondes. Au bout du compte, ces biens matériels nous laissent vides et insatisfaits. Moïse affirme clairement, vivre vraiment, c'est vivre consacré à Dieu, Dieu qui est le créateur de la vie elle-même, et se nourrir de toutes ses paroles. Cela signifie quoi? Que nous devons reconnaître notre besoin de sa parole. Que nous devons admettre que Dieu seul peut nous apporter une réelle satisfaction. Pas une satisfaction qui le lendemain on se demande ce qu'elle est devenue. Non. Que nous pouvons prier pour qu'il soit présent, pour qu'il nous éclaire de sa sagesse et nous guide dans notre lecture de l'Écriture. pour savourer la relation que nous avons avec lui à travers Christ, pour traduire dans la pratique, ce qu'il nous demande. Tous les hommes sont-ils convaincus de cela? Ah ça, non. Et les chrétiens? Non, c'est à chacun de répondre. Dans ce texte, Dieu qui connaît notre cœur veut déjouer les pièges dans lesquels il ne voudrait pas que nous tombions. Je cite, « L'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, c'est un pays de cours d'eau, de sources et de lacs, un pays de blé et d'orge. » Là, vous vous demandez peut-être, mais Israël, c'est un pays aride quand même. Eh bien, si vous y êtes allé, une seule fois, vous verrez que ce que le texte, c'est les richesses là, les sources, elles existent bel et bien. Vous vous demandez d'où sort l'eau. Oui, ça c'est vrai. Mais elles existent. C'est un pays où coule le lait et le miel. Ce n'est pas de la littérature ce que Moïse a écrit dans ce texte. De blé, d'orge, de vigne, de figuier, de grenadier, un pays d'olivier, de miel, un pays où tu mangeras du pain en abondance, où tu ne manqueras de rien, lorsque tu mangeras à satiété, lorsque tu construiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras ton gros et ton petit bétail se multiplier, ton argent et ton or augmenter, et tout ce qui est à toi se développer. Attention, dit le texte, attention. Ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir. N'oublie pas l'Éternel, ton Dieu. Prenons au sérieux ce que Dieu nous dit ici. Nous voyons bien qu'il ne condamne pas la richesse. La richesse en soi. Notre société de consommation est le piège idéal pour nous détourner de Dieu d'une façon tellement subtile que nous ne nous en apercevons pas, si Dieu ne nous le rappelle pas. En effet, quand tout va bien, nous avons tendance, mais c'est une tendance lourde, nous avons tendance à croire que c'est grâce à nos capacités que nous avons réussi, aux études que nous avons faites, aux liens que nous avons avec d'autres personnes bien placées. Nous estimons que notre richesse est le fruit de notre intelligence et de notre travail et nous en retirons secrètement, frères et sœurs, quand on est croyant, de la fierté. Vous trouvez que je courageais? Il est facile de devenir à tel point préoccupé par l'accumulation et la gestion des biens matériels, ou bien de la peur de les perdre, que Dieu passe souvent au second plan. Oh, il n'est pas loin derrière, non. Il est tout près derrière. Mais il n'est pas au premier plan. Mais c'est pourtant lui qui nous donne tout ce que nous avons. Tout. Et c'est à sa demande que nous devons administrer tous les biens qu'il nous donne. La richesse ou l'aisance sont des pièges redoutables pour nous couper d'une relation profonde avec Dieu. Mais la pauvreté n'est pas sans danger non plus. Le livre des Proverbes nous met aussi en garde, je cite, « Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur qu'étant rassasié, je ne te renie et ne dise, mais qui est l'Éternel ? Je n'ai pas besoin. Ou bien, qu'étant dans la pauvreté, je commette un vol qui ne porte atteinte au nom de mon Dieu. Proverbe 30. Pour nous garder de ces pièges-là et de bien d'autres, la courte prière du psaume 139, les derniers versets de ce psaume, nous aident à résister à la tentation et à l'orgueil. Quelle est cette prière ? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, ou scrute-moi, et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Oui, Seigneur, s'il te plaît. Éclaire mes yeux, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur le chemin, sur la voie de la vérité et de l'éternité. Deux versets qui se trouvent strictement à la fin du psaume 139. Deux versets d'une importance incroyable pour se remettre devant Dieu, pour dire Seigneur, tu vois comment mon esprit peut être tordu, tu sais que je t'aime Seigneur, mais tu sais aussi les tentations de cette vie, de ma vie, de cette société. Alors Seigneur, éprouve-moi, scrute-moi et connais mes préoccupations. Regarde Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur le chemin de la vérité.